Bien, alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 décembre, la veille de Hanouka 2018. D'accord ? Alors je vais faire un petit résumé très très rapide et humblement je vais vous résumer ce que j'ai dit. D'abord, Yosef était aimé par son père Yaakov et les frères ne le comprenaient pas. Pourquoi ? Parce que Yosef, dans son prénom, il porte en lui le verbe léosif, ça veut dire ajouter. Dieu lui avait ajouté dans son âme un surplus pour pouvoir rentrer dans le pardès, le pshat, remez, drash, sod. Et de travailler avec son père dans le pardès, si vous voulez, quelque part à l'insu de ses frères. Et lorsque Yosef allait rapporter à son père, on l'a vu la semaine dernière, que tel frère avait une paire de chaussures comme ça, ou il avait rencontré hier quelqu'un qui s'appelait comme ça, automatiquement, lui et son père, Yaakov, rentraient dans ce qu'on appelle les codes que Dieu envoie à ses serviteurs, à ses envoyés, à ses serviteurs, pour comprendre une situation réelle, une situation véritablement de vie, réalisable. Et les frères, eux, ils étaient quoi ? Ils étaient, on peut parler aujourd'hui, au XXIe siècle, religieux, magnifiques, extrêmement saints, mais ils ne rentraient pas dans le pardès, ils n'étaient pas capables de comprendre. Et vous savez que Rivka a donné à Yosef cette robe bigarrée qui appartenait à Esav, et que Esav avait pris de Nimrod, etc. Vous vous rappelez, on a vu ça l'autre fois. Eh bien, quand Yosef a pris cette robe, il était capable, à partir de ce moment-là, de quoi faire ? De quoi faire ? Il était capable de quoi faire, Yosef ? Oui ? Voilà. Il était capable, grâce à son père Yaakov, parce que c'est son père Yaakov qui avait pris, évidemment, de Rivka, grâce à son père Yaakov, de décoder et de rentrer dans son extériorité, n'est-ce pas ? De la vie, l'extériorité de la vie étant liée directement, on l'a dit autrefois, au monde matériel, au monde des Ahu, au monde des Sav. Et Yosef, il était capable de faire le lien entre les deux, comprendre qu'un phénomène réalisé, en fin de compte, appartenait à une volonté. Quelle volonté ? La volonté divine, ce qu'on appelle en hébreu le Et Ratzon. Maintenant, une chose très très importante, lorsque le père a demandé à Yosef d'aller à Shrem pour aller voir si les frères étaient en paix, si les frères ne se chamaillaient pas, si vous voulez. Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il sait que Shrem est une ville, on l'a vu l'autre fois, de la division. Autant Jérusalem est une ville de l'union, Shrem est une ville de la division. Et comme c'est une ville de la division, de la séparation, un peu comme Damas d'ailleurs, comme Damas, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas ? Il avait très très peur que les frères se chamaillent entre eux, ne sont pas d'accord avec telle ou telle conception de la vie ou d'une réalisation, etc. Alors il a dit à Yosef, va voir si mes fils sont en paix. Pourquoi ? Parce que Yosef, en faisant l'union des contraires, par ce qu'on appelle le Yesod, et par son père qui est Tiferet, si vous êtes un peu branché un tout petit peu en Kabbale, ben vous apercevez une chose très importante, très importante, que Yosef, lui, il avait compris la place de ses frères dans le plan d'ensemble et il voulait absolument vérifier si chacun était à sa place. Et automatiquement, si les frères étaient en paix. Alors, lorsqu'il arrive, n'est-ce pas, là-bas, à Shrem, les frères le voient. Alors, une chose très intéressante, c'est écrit dans le pshat de la paracha Vayashev, les frères le voient de loin et tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ourdi un complot pour le capturer, voire même le tuer, et le jeter dans un puits, sous l'effet, si vous voulez, des discussions qu'ils ont eues avec Ruben et Yehuda. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en premier ? Ils ont retiré le manteau, la robe bigarrée de Yosef. Alors si vous voulez, pourquoi ? Pour que Yosef ne puisse plus travailler avec son père Yaakov, décoder et être en quelque part un envoyé de Dieu pour décoder la volonté divine. Ce qu'ils voulaient, eux, si vous voulez, eux, ils sont arrivés au sommet de leur de leur connaissance, ils faisaient Shabbat, ils étudiaient la Torah, comme on dit aujourd'hui, ils étaient très très saints, mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'il y avait un rapport entre le Chol et le Kodesh, entre ce qui était plus ou moins le vécu, entre guillemets, disons, on peut dire, je ne sais pas si on peut dire laïque, enfin en tout cas non sacré, les jours de la semaine, par rapport au Shabbat qui lui est un jour saint. Eux, ils ne pouvaient pas faire le lien entre le sacré et le profane. Et ce côté profane, pour eux, était complètement séparé du sacré. Or, Yosef, lui qui va être vice-roi d'Égypte, n'est-ce pas, carrément, il avait le pouvoir sous Pharaon de tout, y compris de l'économie, et surtout de l'économie, eh bien, lui, il va comprendre qu'il y a un plan d'ensemble et qu'il va falloir réaliser par rapport à l'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les frères? Ils vont tout de suite lui enlever la robe de manière à ce qu'il soit quelque part nu. En profondeur, il est Yaakov, mais à l'extériorité, il ne peut plus comprendre la réalisation de ce qu'il fait. Et donc, ils vont le mettre dans un puits pour, évidemment, étouffer, etc., etc., la parole de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef était très fort en explication de rêve. Et j'ouvre une parenthèse là qui est très importante, c'est que lorsque Yosef a raconté le rêve du soleil et de la lune et des 11 étoiles à son père et à ses frères, le père et les frères ont eu très peur. Pourquoi? Parce que vous savez que le chiffre 11 est directement lié au monde des Saves, au monde de la matérialité. Et Sav était très fort, il avait combien, on l'a vu l'autre fois, 11 seigneurs, 11 cavaliers, 11 particulièrement princes des Saves. Et le chiffre 11 est un chiffre qui est extrêmement puissant, il permet de donner à Isaac toute sa puissance. Or, il a dit que les 11 étoiles vont être inféodées, et la lune va être inféodée, et le soleil aussi va être inféodé, à qui? À Yosef. Ça veut dire que le monde du soleil, le monde des Saves, le monde de la lune, le monde de Yaakov, et les 11 étoiles, toute la force des Saves, vont être inféodés à Yosef. Alors le père, Yaakov, a eu très très peur. Il a dit, mais attends, quoi, tu te prends pour le Mashiach? Seul le Mashiach ben David, or tu n'es pas le Mashiach ben David, puisque moi je sais en tant que Yaakov que le Mashiach va descendre de Yehuda. Donc il y a une chose qui ne va pas. Et les frères ont continué à jalouser cette conception de Yosef, parce que véritablement, encore une fois, il n'avait pas accès. Alors regardez maintenant quelque chose de très 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 important. Yosef, évidemment, il est racheté par des Ismaélites et des Médianites, etc. Il se retrouve en Égypte. Il se retrouve avec la femme de Poutifar. Et la femme de Poutifar qui lui fait des avances. Et Yosef prend peur, parce que Yosef, c'est le fidèle parmi les fidèles par rapport à Dieu. Il a dépassé le côté pulsion, sentiment, etc. Il était très beau. Il a tiré les filles, si vous voulez. Mais seulement, il était toujours fidèle à son Dieu. Et la femme de Poutifar lui a fait des avances, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a pris son manteau, et il a le jeté, lancé, laissé ce manteau à la femme de Poutifar. Alors regardez, vous avez la robe bigarrée, qui a été prise par les frères. Maintenant, le manteau de l'Égypte, que dit Yosef? C'est pas pour moi. Je te le laisse, toi, femme de plaisir et femme qui veut être infidèle à ton mari. Moi, je n'accepte pas. Parce que moi, je suis fidèle à quoi? À mon Dieu. Et il se sauve. Vous comprenez que la robe bigarrée qu'ont pris les frères et le manteau qui a été laissé à la femme de Poutifar, au niveau, si vous voulez, d'un petit secret, parce que évidemment, c'est sans fin, l'explication est sans fin, il faut rester toujours très très humble, eh bien, au niveau du petit secret, eh bien, Yosef a été quelqu'un de très très moral, d'hyper moral et de fidèle à Dieu. Alors regardez maintenant par rapport à Hanouka. Par rapport à Hanouka, c'est aussi très très clair. Voilà, nous sommes à peu près à une centaine, un peu plus plutôt, une centaine d'années avant l'entrée des Romains en Terre Sainte de l'époque, n'est-ce pas? Et donc nous sommes sous l'Empire grec. Et le territoire hébreu de l'époque, notamment le territoire de Judée, c'était le second territoire de Judée, la seconde royauté de Judée, n'est-ce pas, la seconde royauté de Judée, était sous l'emprise Syro, la Syrie, qui était une province grecque. Or, les Grecs, ils étaient extrêmement puissants, pas seulement au niveau de l'armée, surtout au niveau des arts, de la culture. Les Grecs, c'est Yavan en hébreu, les Grecs ont dit la Torah dans la paracha Bereshit, n'est-ce pas? Les Grecs, Yavan, a séjourné, a habité, a séjourné dans la tente de Hévère. Et vous savez que Hévère, c'est un des fils de Noé, dans lequel les Sémites, c'est-à-dire Sem et nous, descendons. Les Juifs descendent de Hévère. Et on dit que le royaume de Yavan va séjourner dans la tente de Hévère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, d'abord, une chose très importante, les Grecs étaient très puissants au niveau de la philosophie, au niveau de la pensée, au niveau des arts. D'accord? Et donc, s'il a séjourné dans la tente d'Hévère, c'est que le côté artistique est aussi, si vous voulez, dans Yaakov. Il est aussi chez nous. Donc très vite, un mouvement fondamental d'assimilation va s'opérer progressivement jusqu'à un point où les Hashmonaïm, ça veut dire le Kohen Gadol, n'est-ce pas, Matatyahou, il va dire ça suffit, on arrête là, c'est très grave. C'est très grave de quoi? On va à la catastrophe. Pourquoi? Parce que les Grecs veulent couper le nom de Dieu. En quoi? En deux. Yud-Kevavke, Elohim. Ils ne veulent pas que Yud-Kevavke, par sa Torah, par ses lois, puisse resplendir dans ce monde. Eux, ils veulent être quoi? Ils veulent être intelligents, philosophes, cultivés, artistes, musiciens, tout ce que vous voulez, mais pas d'intervention de Dieu sur terre. On n'en veut pas. Donc, on va chercher à assimiler au maximum les Hébreux. Et ça a été très loin. D'abord, évidemment, la circoncision terminée. Deuxièmement, et surtout, mais c'est très important, tout est très important, n'est-ce pas? Deuxièmement, et surtout, le Limud Torah était interdit. On n'avait pas le droit de faire le Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Parce que vous avez compris, c'est le Sifre 7. Et c'est quoi Hanouka? C'est 8 bougies. C'est les 8 bougies, les 8 jours. Ça veut dire qu'en fin de compte, le combat était terrible. Ils voulaient prouver, les Grecs pouvaient prouver qu'on pouvait vivre très très bien sans Dieu, sans le Dieu d'Israël, évidemment, sans le Dieu un. Et que nous aussi, on est très intelligents. Il n'y a pas que vous qui avez la connaissance. Nous aussi, on a la connaissance. Ils avaient une connaissance très, très, très poussée, mais au niveau du monde d'Elohim. Au niveau du monde d'Elohim. Une guerre par les Hashmonaïm, par les Hasmonéens, a été déclarée. Elle a duré de nombreuses années, n'est-ce pas? Plus de 8 ans, si je me rappelle bien, plus de 8 ans. Qui fait que cette guerre terrible, on était très peu. C'était une armée énorme. On les a vaincus. Et pourquoi on les a vaincus? Évidemment, parce que c'était la volonté de Dieu, bien entendu, parce qu'un Nes Gadol est arrivé dans ce temple. Et qu'est-ce qu'il est arrivé dans ce temple? Une bougie, de l'huile, qui était réservée au temple, qui était sainte, qui n'a pas été, si vous voulez, désacralisée par les Grecs, n'est-ce pas, a été retrouvée. Et au lieu de durer, elle devait durer un jour, tout le monde sait ça, au lieu de durer un jour, elle a duré 8 jours. Alors c'est très important. On passe du 1 au 8, à l'alliance, à la Brit Mila, à l'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu dit, attention, ce que veulent les Grecs, c'est arrêter le monde au sixième jour. Il ne veut pas de Shabbat, il ne veut pas d'alliance. Alors au niveau du sixième jour, eux, ils sont très bien, parce qu'ils ont le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, toute la création. Et ça leur suffit pleinement. Et on va faire de beaux chevaux, on va faire de belles statues, on va faire de belles artistes, de belles musiques, etc. Magnifique. Seulement, on ne veut pas du Dieu un chez nous. On ne veut pas. Alors, si vous voulez, Vakasha, vous pouvez croire à qui vous voulez, n'est-ce pas? Mais vous nous laissez tranquilles, nous, on est idolâtres. Donc, on va rentrer au temple, on va mettre un cochon, un porc. Et ça, c'est le combat terrible des Grecs. Quel était le combat terrible des Grecs? C'est de couper le monde en deux. Le monde goy, non juif, si vous voulez, où il y a la connaissance magnifique, scientifique, philosophique, culturelle, artistique, musicale, etc. Et vous avez une connaissance que les Grecs ont refusée, qui est la connaissance d'Israël par la loi, par la Torah, par la Brit, et notamment par la Brit Shalom. Ils n'en voulaient pas. Et donc, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? On vit, en fin de compte, le soulèvement de ces nations qui descendent de l'empire, entre guillemets, occidental, entre guillemets, à la base, c'est quoi? C'est l'empire grec, la culture grecque. C'est très beau, la philosophie, c'est magnifique. D'accord? Vous allez apprendre la philosophie. D'accord? Eh bien, la philosophie dans le programme, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est très beau. Mais seulement pour nous, c'est complètement impur. Pourquoi? Parce que ça dissocie le juif de son Dieu. Alors, étudier la philosophie dans le cadre, si vous voulez, d'une Torah universelle, oui, à 100%, puisque le monde de Yafet et séjourne dans le monde de Shem, vous comprenez? D'accord? Le monde de Yafet séjourne dans le monde de Shem. Maintenant, de Sem, en français. Maintenant, les deux mondes sont complémentaires, mais ils sont différents. Un va recouvrir l'autre. Et qui est ce monde qui va recouvrir l'autre? Évidemment, c'est le monde de la Torah. Il y a une Torah, première table de la loi, qui est par définition universelle, il y a une Torah qui est la même, qui est la même et qui est la même. Une Torah, seconde table de la loi, qui est pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, lui, dans les tables de seconde table de la loi, a toutes les 613 mitzvot à accomplir, n'est-ce pas, pour pouvoir arriver à faire sortir, j'allais dire, du cachet, les premières tables de la loi. Et ça, c'est le Machia Ben David. Et Machia Ben David, comme viendra Bezat Hashem, à partir de Jérusalem, il va réunir les deux manières de voir, la Torah, qui sont en fin de compte les mêmes, n'est-ce pas? La Torah du second thème de la loi et la Torah des premières, et encore une fois, je répète, elles sont une, elles sont les mêmes. Maintenant, ce qu'ont voulu faire les Grecs à partir de Hanouka, n'est-ce pas? C'est de couper, alors maintenant, écoutez-moi bien, c'est très important, la Knesset Israël, du clan Israël et du Tzibour Israël. Le Tzibour Israël, c'est vous et moi. Vous et moi, c'est-à-dire Tzibour, c'est Tzadik, Benoni et Racha. Ça veut dire même quelqu'un qui n'est pas, qui est Racha, qui est mauvais, n'est-ce pas, fait partie du peuple d'Israël. Puis il va y avoir toute une série de temps de maturation, d'épuration. On va devenir le Kaal. Le Kaal, c'est déjà Kadosh. Alors, ce qui est encore beaucoup plus Kadosh que le Kaal, qui correspond carrément à ce qu'on appelle la Shrina, à l'essence divine.
Excuse-moi, toi, tu es là jusqu'à la fin?
Oui.
D'accord.
Je suis enregistré. Oui.
Tu fermes le.
D'accord. D'essence divine. Eh bien, cette Knesset Israël qui est liée directement à ce qu'on appelle la Shrina, cette Shrina est fondamentale. Pourquoi? Parce que cette Knesset, c'est quoi la Knesset? C'est la collectivité. Et c'est quoi Israël? Maintenant, vous avez compris. C'est l'union des contraires. C'est le Hémet, ce qu'on appelle l'unité. C'est ce qu'on appelle la vérité. Et pour arriver à la Knesset Israël, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une terre de quoi? De réunion. Yerushalayim, c'est quoi Jérusalem? C'est Yerushalayim. Ça veut dire quoi Yerushalayim? La ville de l'union, du Shalem. Shalem, Salom, Shalom. Shalem, la Shlemout, chez nous on dit en hébreu. La Shlemout, c'est quoi? C'est le fait qu'on est apaisé. Par quoi? En paix. Par quoi? Par le fait qu'on arrive à l'entité terminale, pleine. On est plein. On est plein de quoi? De toutes les nations, de tout l'universel, de toutes les individus qui sont unis ici avec une fonction complémentaire à d'autres, qui ensemble ont fait, si vous voulez, la réalisation d'une volonté. On réalise la volonté du Dieu un. D'accord? Vous avez compris?